Algérien en situation irrégulière en France a été accusé d'avoir tué au couteau un passant et blessé 6 autres personnes samedi à Mulhouse. Le comité interministériel sur l'immigration s'est positionné. Pas de volonté d'escalade avec l'Algérie, mais une menace de remettre en cause les accords de 1968. François Bayrou a réuni hier ce comité, ravivé par l'attentat de Mulhouse.
Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Le multilatéralisme environnemental ne se porte pas très bien. On sait que la COP 29 avait été jugée décevante en novembre à Bakou. Et il y a une autre institution qui s'appelle la CDB, la Convention sur la diversité biologique, qui a bien du mal aussi à se faire entendre. Il y avait des négociations qui avaient été interrompues. Elles ont repris à Rome sous l'égide des Nations Unies. Ce sont des négociations sur la protection de la nature et qui veulent s'unir, donc les négociations, et en tout cas les signataires de la CDB veulent soutenir la vie sur la planète. Et le ministre Susanna Muhammad, qui préside ses 16e conférences de la Convention sur la diversité biologique, rappelle même qu'il a entre ses mains la mission la plus importante de l'humanité au 21e siècle, c'est-à-dire notre capacité à soutenir la vie sur cette planète. Maintenant, il y a les affrontements Nord-Sud pour savoir qui finance quoi. Et là, ça bloque à de nombreux égards. Et ça avait justifié le fait que cette précédente COP 16 avait été interrompu à Cali. Voilà, donc on va essayer de resituer un petit peu les choses. C'est vrai que c'est un petit peu la diplomatie qui a un langage un petit peu étrange ou opaque pour le grand public. Mayol Aldema et Paul Picaretta. La question, c'est question de survie. La biodiversité, on n'en parle pas assez, on ne la finance pas assez. C'est ça, en fait, l'idée.
Oui, disons que c'est un sujet qui est beaucoup moins à mode que le climat, effectivement. Dans les consciences, d'ailleurs, j'ai l'impression, en tout cas en France, que quand on dit écologie, on pense avant tout climat. La question de la biodiversité, elle a souvent été assez marginalisée dans l'écologie, parce que ceux qui portent ces questions-là sont des écologistes purs et durs, scientifiques qui ont les pieds dans la boue à 7h du matin dans le bocage normand ou ailleurs. Donc ça a été assez compliqué de porter le sujet de biodiversité dans le débat public. D'ailleurs, bon, on ne parle pas beaucoup il y a très peu d'actualité sur la biodiversité. Sur l'enjeu, en fait, qu'on a en ce moment, c'est de savoir comment va se répartir l'argent pour cette opération biodiversité. Il se trouve que, paradoxalement, c'est dans les endroits où il y a le plus de biodiversité, c'est-à-dire le plus d'espèces différentes, les pays du Sud, en fait, hein, l'Amérique du Sud, par exemple, c'est là où il y a le plus de biodiversité, mais c'est là aussi où il y a le moins de moyens mis en œuvre pour la préserver. Donc le sujet, les sujets d'accrochement sont là. Voilà.
Les pays développés qui s'engagent à fournir 20 milliards de dollars d'aide annuelle pour la nature d'ici 2025, 30 milliards d'ici 2030, mais pour l'instant, ils peinent à sortir, ils n'ont atteint qu'environ 15 milliards en 2022. Donc ils peinent à financer cet effort. Mayol Aldebert.
C'est vrai que moi, ce qui me fascine un peu, c'est tous les deux ans, il y a ces COP qui sont un peu moins connues sur la biodiversité, donc la COP 16 à Cali. Et à chaque fois, les participants se concertent pendant des jours et des jours, et puis ça finit par une grand-messe en pleine nuit jusqu'aux aurores, où chacun arrache des concessions, et puis finalement, il y a des cris de victoire à la fin. Et tout le monde filme ce moment, on l'entend à la radio.
Et après, on reprend l'avion.
Voilà, et tout ça, oui, en plus. mais bon, c'est nécessaire en même temps. Tout ça pour finalement pas grand-chose, même si il y avait eu quelques mesures qui avaient été présentées comme des victoires en novembre dernier, je crois, notamment la création d'un organe permanent pour les communautés autochtones et une contribution financière des entreprises pharmaceutiques sur le séquençage génétique issu de la biodiversité de ces pays-là. Mais voilà, il y a des grandes ambitions affichées et ensuite, sur les plans d'action, par exemple, il n'y a que 44 pays qui ont présenté leur plan d'action pour suivre la Convention sur la diversité qui avait été adoptée en 2022, qui avait été présentée comme très ambitieuse par toutes les associations. Donc c'est vrai que, en fait, ça souligne le problème que il n'y a pas de contraintes juridiques. En fait, c'est très difficile dans cette matière-là. Ce qui pourrait y avoir, en fait, c'est une pression géopolitique de la part des plus gros acteurs. Mais les plus gros acteurs, c'est par exemple les États-Unis. Et on se doute bien que là, avec Donald Trump, ça va être un peu compliqué de faire pression sur le sujet. Et puis après, c'est des choix. Mais c'est vrai que les pays du Nord dépensent déjà énormément en la matière. Je prends juste un petit exemple que je trouve assez marrant. À côté de chez moi, chez mes parents à Grenoble, il y a une route sur laquelle la municipalité a construit des tunnels pour les amphibiens, pour les grenouilles. Ça a coûté 300 000 euros. Donc tout cet argent, c'est vrai que les pays du Sud n'ont absolument pas les moyens de le dépenser. Il faut qu'il y ait une solidarité avec l'aide au développement. Et je crois qu'ils réclament 30 milliards d'euros. Mais c'est vrai qu'il y a déjà une dissymétrie en fait de base dans cette approche.
Il y a l'idée quand même peut-être un peu de culpabiliser les pays du Nord. En tout cas, on entend des phrases comme celle-ci, si les pays riches se défilent, la confiance pourrait être rompue. Résoudre la crise de la biodiversité est une question de survie pour les écosystèmes, l'économie et l'humanité. Ce qui est étonnant, c'est la disproportion entre le discours, les discours très apocalyptiques, et après les moyens qui ne suivent pas, ou le fait qu'on ne soit pas du tout à la hauteur de ces discours. Je peux Picaretta. Et ça, sur l'écologie,
juste
c'est quand même assez fréquent.
Je pense que les opinions des pays du Nord sont beaucoup plus sensibilisées à cette question du climat et de la biodiversité, et donc forcément beaucoup plus sensibles à la culpabilité. Donc forcément, c'est un levier pour les pays du Sud. Franchement, il y a certains pays où il n'y a pas du tout cette conscience écologique qu'on a en Europe, hein, honnêtement. Donc forcément, c'est un levier aussi, et c'est de bonne guerre de jouer là-dessus.
Oui, l'Amérique du Sud et la plupart des pays d'Amérique du Sud sont très conscientisés sur la question écologique quand même. Donc c'est plutôt des pays phares dans les pays du Sud. Mais sur le côté apocalyptique, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent hein, depuis une dizaine d'années quand on entend parler des écolos, perspective apocalyptique, etc. J'entends que ça peut faire peur. La réalité quand même de la biodiversité, c'est que, pour prendre un chiffre très grossier, on dit souvent la biodiversité, c'est 80% du PIB. Parce que, de fait, la biodiversité, c'est ce qui nous permet de nous nourrir de vivre et de faire de l'artisanat, etc. Bon, donc c'est un enjeu vital, littéralement. C'est littéralement un enjeu vital. Donc c'est pour ça qu'il y a cette perspective un petit peu apocalyptique, quoi, quand on en parle.
Comment sortir justement de peut-être cette perspective-là, essayer de conscientiser, de responsabiliser simplement et de mener à bien un agenda responsable?
Ouais, c'est des leviers, le levier apocalyptique, on va dire que c'est celui qu'on active dans les pays occidentaux parce qu'il fonctionne pour mobiliser les plus jeunes. Et ça, c'est vrai, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne moins chez un prototype plus conservateur, peut-être plus âgé. Il n'empêche, bon, ce sont les jeunes qui font bouger les choses. Et donc, je ne sais pas s'il faut à tout prix sortir de cette rhétorique-là ou tenter d'y adhérer à sa façon, sans remettre en question sa foi, par exemple, hein, puisqu'on est, on est chez RCF Radio Notre-Dame. Mais voilà, c'est important de comprendre que la question de la biodiversité prise sous un angle apocalyptique ne va absolument pas remettre en question votre foi en la résurrection, des choses comme ça. C'est très concret, en fait. Hein. C'est une voiture qui est un train qui est lancé à vive allure et qui fonce dans le mur. Bah, il faut l'arrêter. Bon, bah, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Hein, encore une fois, la biodiversité, c'est ce qui fait que notre économie, une partie de notre économie mondiale, tourne, fonctionne.
Je crois que WWF dit que c'est effectivement la moitié du PIB en France qui dépend de la bonne santé des écosystèmes. Et c'est vrai que la biodiversité, comme disait Paul tout à l'heure, elle est moins visible en fait que le réchauffement climatique où on a des étés plus chauds, il y a les incendies en montagne, c'est particulièrement visible. C'est
On a tout misé là-dessus, hein, en termes de communication, sur le climat, le réchauffement.
Si vous voulez, quand on voit les glaciers fondre en l'espace de 10 ans, mais même pour quelqu'un de ma génération, qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, les anciens le disaient avant, nous en montagne, puisque je viens d'un territoire montagnard, on voit les glaciers fondre en l'espace de 10-15 ans, c'est vraiment très impressionnant.
Ça vous afflige, Mayol ?
Disons que... Moi, je suis amoureux des montagnes, donc forcément, ça m'afflige. Après, honnêtement, la fonte des glaciers a pas beaucoup de conséquences. C'est visible, c'est visuel en fait. C'est très impressionnant visuellement, et ça, en fait, ça traduit un problème plus global de réchauffement climatique. Mais la fonte des glaciers en elle-même, bon, bah, il n'y aura plus de glaciers, quoi. Tant pis, quoi.
Vous savez, Mayol, qu'il y a au cœur de Chamonix, il y a un parc avec une butte qui marque l'état maximal d'avancement du glacier de la mer de glace dans les années 1800, je ne sais plus, 1850. Et on peut se poser la question aussi de savoir si le refroidissement ne serait pas plus dramatique que le réchauffement, parce qu'à une époque où les glaciers avançaient, les gens étaient terrorisés par l'avancement des glaciers qui dévastaient les cultures et empêchaient les pâturages.
Oui, oui.
Donc c'est aussi une question de perception. On se dit, est-ce que le réchauffement est une chance ou une malédiction?
En fait, là, il faut quand même souligner qu'il y a une accélération, qu'il y a toujours eu des aires glaciaires. Il y a des glaciers qui sont descendus dans les vallées en fonction des époques, plus ou moins profondément. Mais aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est pas sur le sujet des glaciers, c'est pas la fonte des glaciers en eux-mêmes, c'est la vitesse à laquelle ils fondent.
C'est ça.
Et la question d'adaptation, puisqu'on on le répète, hein, mais le problème, effectivement, c'est l'accélération qui pose une question d'adaptation du vivant à ce changement. Et donc, moins la biodiversité a la capacité de s'adapter, et plus elle est déstabilisée.
Et là, on est un petit peu pris de court justement par la vitesse et l'accélération dont vous parlez, et puis la décision politique qui, elle, ne se caractérise pas par sa célérité. C'est plutôt l'inverse. Vous êtes sensible à cette question de la fonte des glaciers aussi, qui est très visible?
Alors, mes parents sont grenoblois, mais
également, j'ai
grandi en Provence, et donc en Provence, il n'y a pas beaucoup de glaciers. Je suis de là-bas, mais c'est vrai qu'il y a des territoires qui changent, et on est beaucoup plus sensible, je pense, par chez moi, à l'avancement de la bétonisation, etc. Bon,
mais alors ça, c'est un sujet qui peut tout à fait entrer dans le cadre de la biodiversité.
C'est un sujet de biodiversité, évidemment, parce que effectivement, moins il y a d'insectes, moins il y a d'oiseaux, et c'est une chaîne. Tout est lié, comme disait un certain pape. J'ai été marqué par une interview là qui a été donnée sur le site de nos confrères de Famille Chrétienne. L'intervieweur disait il faut arrêter de s'alarmer sur la biodiversité, puisque en France on sauve des espèces, et il citait quelques exemples. Son intervieweur n'avait pas apporté la contradiction. C'est vrai qu'en France, comme il y a un certain budget pour la biodiversité, on arrive à sauver des espèces, mais pour une espèce qui passe sous un statut normal, deux espèces passent sous le statut en voie de disparition. Et donc, on n'est pas l'un des plus mauvais pays en biodiversité, loin de là. Mais globalement, le constat que font les ornithologues, par exemple, depuis 20 ans, c'est un constat assez dramatique et assez triste. Et ils ne sont pas des gens, ce sont des scientifiques, il faut quand même rappeler les choses, hein, les gens qui comptent le nombre d'oiseaux et de vertébrés dans leur région sont d'abord des scientifiques de formation, des champions de la SVT. Bon, donc ce ne sont pas des gens qui ont l'habitude d'être irrationnels ou voilà. Bon, je ne peux que citer Joanne Esserman, hein, le chrétien très engagé sur la question de la biodiversité, et vous recommandez la lecture de son livre qui s'appelle Face à l'éco-anxiété, et qui est vraiment un spécialiste du recensement. Globalement, le tableau est assez noir. On a très peu de bonnes nouvelles qui nous parviennent du terrain, et donc il faut continuer d'investir, continuer de recruter. Et le débat, il est là. C'est un débat politique. Hein. Quand vous avez des présidents de région qui ferment et qui s'attaquent à des observatoires, des points d'observatoire, etc., qui disent bon, on va fermer les subventions à la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, par exemple, bah c'est dramatique, quoi. C'est un pas en arrière. Donc le débat, il est aussi politique, quoi.
Mayol Aldebert, sur ce point.
C'est un débat très concret, peut-être qu'on peut rappeler, puisqu'on est parti sur le sujet de la COP16, que l'objectif en 2022, donc dans l'accord ambitieux de la COP15, c'est de protéger 30% des mers et des terres, et de restaurer 30% des écosystèmes dégradés. Donc ça, c'est l'objectif.
C'est énorme, hein.
C'est énorme. Et l'ONU a fait le constat en septembre, donc 30%, qu'on était à 8% des mers et 17% des terres protégées. Donc ça, c'est voilà, l'objectif, et puis la réalité. Et après, il faut mettre en place des plans d'action. Et là, c'est vraiment tout l'enjeu des COP sur la biodiversité. Donc, c'était l'enjeu de la COP16, ça n'a pas marché. Ça sera l'enjeu de la prochaine COP, de politiquement, très concrètement, voir comment on peut faire pour contraindre, mais en fait la contrainte n'existe pas, donc plutôt encourager ou convaincre les pays de mettre en place des plans d'action très concrets pour parvenir à ces objectifs, puis grignoter quelques pourcents petit à petit.
Mais ces plans d'action, Mayal Deber et Paul Picaretta, se heurtent bien souvent à l'incompréhension ou à l'hostilité des agriculteurs, par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi on les persécute sur la protection des espèces. Et là aussi, si je reviens au sujet précédent, on a du mal à se parler, semble-t-il. Il y a des milieux qui ont du mal à prendre conscience, ou je ne sais pas, soit de l'urgence, soit on ne leur adresse pas la parole sur un ton qui convient, on n'est pas suffisamment empathique, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ce problème de communication, semble-t-il.
Qui est largement surévalué par les médias, d'ailleurs, parce qu'il y a eu un rapport récemment sur l'entente entre agriculteurs et écolos, et malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le citer, parce que j'ai plus la référence en tête, mais qui disait que justement les tensions entre agriculteurs par exemple, je pense à l'Office des forêts qui est souvent mis en cause par les agriculteurs dans les médias.
La police de l'environnement hein, qui voilà. Fait partie des. On en parlait lundi dernier.
Ce rapport montre qu'il est largement. Ce rapport conflictuel. Le rapport montre que le rapport conflictuel est surévalué par les médias. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à monter les deux tendances. L'une contre l'autre, et ce serait intéressant parce que c'est la première fois que je vois un rapport comme ça qui dit qu'en fait globalement ça se passe bien. Bon, de toute façon, là encore une fois, la question va être politique puisque pour aider la transition agricole, si appelons-la comme ça, il va falloir des moyens, il va falloir de la pédagogie. Voilà, donc ça dépend aussi du politique et pas simplement du bon vouloir des agriculteurs.
Oui, et en fait, les agriculteurs sont quand même les premiers, sont les plus proches de la nature, et il y en a énormément qui sont sensibilisés à la question écologique. Ce qu'ils veulent juste, c'est pas qu'on leur fasse reposer le poids de la transition sur leurs pauvres seules épaules. Voilà, après, il y a beaucoup d'absurdités administratives. Moi, j'étais sur un bateau de pêche il y a 2 semaines pour faire un reportage sur la pêche à la coquille Saint-Jacques. Et les réglementations sont telles... Alors, elles portent beaucoup de fruits, mais les pêcheurs sont parfois vraiment asphyxiés et infantilisés. Donc, il y a aussi une manière de faire, en fait. Mais en soi, sur le problème écologique, moi, j'ai eu l'impression que tout le monde est quand même assez d'accord. Il y a un consensus... Les agriculteurs sont assez sensibilisés. Les agriculteurs de la mer, en tout cas.
Les médias ont un rôle à jouer pour justement que cette entente puisse être largement répercutée, et pas forcément les litiges, hein, parce qu'on parle souvent des litiges.
On parle souvent des litiges, mais on parle beaucoup moins, effectivement, de ce qui se passe bien, des accords qu'on arrive à trouver, des partenariats, des choses qui se font ensemble. Ça marche moins bien, quoi.
Vous avez fait un saut au salon de l'agriculture, l'un et l'autre ?
Non, moi non.
Non ?
Hélas, pas cette année.
Pas cette année. Bon, bah, écoutez, nous, on a.
Et vous ?
Bah oui, écoutez, nous avons eu l'occasion d'y aller, puis de recevoir aussi un certain nombre d'interlocuteurs sur le sujet, et d'aborder quelques thématiques proches des nôtres. Le foot français, on va passer à un autre sujet pour le temps qui nous reste, Mayal Aldebert et Paul Picaretta. Le foot français est-il au bord de la crise de nerfs ? Des audiences en berne, la crise des droits télé, la querelle sur l'arbitrage, des changements aussi dans les modes de consommation du foot. C'est une manière de revenir un petit peu aux médias. On a commencé avec la disparition de la chaîne C8. Le football, qui est quand même une locomotive à audience, traverse-t-il une grave crise existentielle ? Un papier du journal Le Monde le soulignait tout récemment. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui amènent à considérer que cette crise est grave, Paul Picaretta.
Bon, c'est pas la première crise grave, mais de fait, je pense qu'il y a une escalade de la crise. Pour vous faire un petit tableau, le foot français traverse une crise des droits télé, c'est-à-dire que les clubs professionnels en France vivent en moyenne à 50%, le 50% de leur budget provient des droits télé, c'est-à-dire le principal diffuseur du foot verse de l'argent au club pour être diffusé.
Donc ce sont les chaînes de télé.
Voilà.
Toutes chaînes confondues.
Alors, en France, c'est DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1. Bon. Et puis ensuite, vous avez Bein, une chaîne qatari qui est minoritaire, qui diffuse simplement deux affiches sur 10 de la Ligue 1. C'est un sujet qui existe depuis le Covid, en fait, avec la crise des droits télé, avec l'effondrement de Mediapro, qui était le diffuseur à l'époque et qui n'a pas pu verser l'argent à cause de la crise. Et ensuite, on va de crise en crise depuis 2020. Et je rappelle qu'à l'époque, historiquement, le diffuseur du foot français, c'était Canal+. Mais que Bolloré n'a pas voulu se positionner sur le foot français parce qu'il proposait un autre type d'offre. Bon, il y avait une rupture. Voilà, c'est ça un peu l'histoire des droits télé, hein, l'histoire accélérée. Et donc, comme on a un problème de versement pour les clubs français, ça crée une crise où les présidents se rejoignent entre eux pour faire des réunions. Et le président le plus charismatique ou le plus en vue, qui s'appelle Nasser El Khelaïfi, qui est le président du Paris Saint-Germain, pris dans un conflit d'intérêts, puisqu'il se trouve être aussi le patron d'une autre chaîne télé de diffuseurs, c'est-à-dire qu'à la fois vous êtes client et propriétaire, donc ça pose une question de conflit d'intérêts. Voilà le tableau, et puis il y a la question effectivement du piratage qui est très importante, puisque vous avez en moyenne, c'est très dur à estimer évidemment, mais on peut estimer qu'il y a 2 millions de consommateurs de foot à peu près, en moyenne, hein, avec évidemment des pics. Mais sur ces 2 millions, on n'atteint jamais 2000 clients, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent déjà sur des plateformes.
Vous voulez dire 2 millions de clients ?
Il y a potentiellement 2 millions de clients, mais il n'y a jamais 2 millions de clients réels, puisqu'il y a le piratage, il y a des gens qui regardent effectivement sur Telegram ou ailleurs. Et vous avez un autre sujet pour terminer, c'est le problème que ça pose, c'est que les gens, les jeunes, mais pas que, se désintéressent de plus en plus de l'offre football à cause de justement
c'est trop long.
De ces crises. C'est trop long. Deux,
c'est trop long.
Un match de 90 minutes, c'est trop long. Les jeunes veulent des formats de 10 minutes, on nous dit. 10, 15 minutes, voilà.
Ils regardent les résumés.
Ils regardent les résumés. Hein, les résumés de 10 minutes fonctionnent beaucoup mieux que les matchs de foot. Et puis, il y a une crise de nerfs du public aussi. C'est-à-dire que comme on va de crise en crise, à la fin, les gens se détournent de leur club. Et on pourrait ajouter dans l'eau le prix des places dans les stades qui augmente. À cause de la crise, c'est-à-dire que plus il y a de crise,
c'est la spirale.
La spirale négative. Et à la fin, les présidents de club se tapent dessus. Et ça a donné ce week-end un moment complètement fabuleux où le président de l'Olympique de Marseille a traité tout le monde de corrompu en disant que l'arbitrage est corrompu, etc. Bon, il s'est entre-temps excusé à l'AFP, mais voilà.
Ça fait beaucoup quand même.
Au moins, ça fait parler du foot. Moi, je pense que je sais pas si c'est un très bon calcul de la part de DAZN quand même de rentrer dans cette polémique-là, parce que en fait leur problème principal, eux, c'est que je crois qu'ils ont 500 000 abonnés, ce qui est beaucoup moins qu'espéré. Ils avaient un objectif de 1,5 million. Bon, c'était aussi de la communication, parce que 1,5 million, ils n'y seraient pas parvenus, mais le problème, c'est la désertion de ces abonnements qui coûtent une quarantaine d'euros. Et 40 euros dans un contexte de crise économique de fin de mois, bon, c'est...
Par mois ?
40 euros par mois.
40 euros par mois, oui. C'est compliqué, sachant que le foot, c'est le sport populaire par excellence. Je trouve que c'est intéressant, la baisse d'audience et le désintérêt pour le foot en général, parce que, en fait, si on essaie de dresser un diagnostic, ça dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'autres sports qui prennent de l'ampleur, qui sont accessibles en clair. Je pense à, par exemple, au biathlon sur la chaîne L'Équipe TV. Alors moi, je suis pas un footeux, mais je regarde beaucoup le biathlon. Et ils ont fait c'était les mondiaux en Suisse la semaine dernière. L'équipe de France a remporté 6 médailles d'or sur 12 courses, si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu toute l'époque Martin Fourcade, et puis ensuite voilà. Mais bon, je pourrais parler des heures, mais je vais m'arrêter là. Mais ils ont fait des audiences exceptionnelles sur la chaîne L'Équipe. Donc il y a ce sujet-là, et puis on arrive aussi après les Jeux Olympiques, qui a remis aussi au goût du jour certains sports en accès gratuit. Et puis donc ça, c'est une première part. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a le format aussi. Le format 90 minutes, on se retrouve entre amis, qui est concurrencé par une multitude en fait d'offres de divertissement sur les plateformes de streaming, mais pas que. Il y a aussi le scrolling tout simplement sur les réseaux sociaux. Honnêtement, la moyenne d'écran portable, ordinateur, télé confondu par jour pour la jeune génération, c'est vraiment colossal.
C'est 7 heures à peu près.
C'est 7 heures, c'est énorme. Et on est capable de passer des heures à scroller des vidéos donc d'une trentaine de secondes, c'est même pas 10 minutes, quoi. C'est vraiment qui vous enferme. Donc ça coupe un peu des relations sociales. Et je me demande s'il n'y a pas un effet Covid où pendant le Covid, les gens se sont retrouvés seuls. Donc peut-être qu'au lieu de partager, de se retrouver, partager une bière, une pizza ou je ne sais quoi autour d'un match de foot, ils se sont plus canalisés sur des offres individuelles. Je me demande s'il n'y a pas cet effet-là aussi qui joue sur les audiences.
Effectivement, il y a la fragmentation du sport avec du MMA, du tennis, du vélo, enfin tout un qui se présente sur des formats très très courts. Donc les gens s'intéressent de plus en plus au sport. Est-ce qu'il faudrait voir la nature de cet intérêt ? Est-ce qu'on n'est pas vraiment encore dans du pur divertissement où la passion est assez fragile et se détourne de leur passion historique, qu'est le foot, leur club ? Et donc cette augmentation de l'offre fait aussi que le match de foot qu'on regardait quand on était petit, c'était un peu l'événement. Il y avait un match par semaine. Aujourd'hui, vous avez 4-5 matchs de foot par soir.
Oui. Et il y en a trop d'une certaine façon.
Il y a trop de matchs et donc il y a tellement d'offres que ça descend l'attention, l'émotion qu'on pouvait avoir pour le match de la semaine. Et ça, c'est un effet dont on ne mesure pas encore les conséquences.
Merci beaucoup de nous avoir fait partager vos réflexions. Paul Picaretta, journaliste, éditeur, et Mayol Aldebert, journaliste au Figaro. Merci d'être fidèle à ce débat du jour. Chaque matin entre 9h et 10h. Et bonjour Malcœur Gormand.
Bonjour Louis Dauphren, bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, c'est Je pense donc j'agis. On va parler de l'écriture à la main. L'écriture manuscrite est-elle en danger ? Bonne question. On va regarder ça plus près avec nos deux invités, puis bien sûr avec vos témoignages comme chaque matin. Au 04 72 38 20 23, par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook de l'émission Je pense donc j'agis. À tout de suite.